France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véret.
Le Mexique, la musique et le monde, 7e chapitre, les années 20, de Mexico à Paris, New York et La Havane. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. En 1924, c'est un homme à poigne, intransigeant, qui accède à la présidence du Mexique. Il s'appelle Calles. C'est lui qui crée le parti qui sera à l'origine du PRI, le Parti Institutionnel Révolutionnaire, sorte de parti unique qui dirigera le pays durant 70 ans, de 1930 à l'an 2000. Calles se veut le seul héritier véritable de la Révolution, son leader maximo, comme il se fait appeler. Mais il sera loin du compte. Cette année-là, très influencé par le marxisme, il voyage en Allemagne, dont il admire la discipline, les organisations du travail et le statut des syndicats. Il s'en inspire au Mexique et le début de son mandat est remarquable. Il fonde plusieurs banques, fait construire des routes et de nombreuses infrastructures. Mais son extrémisme, son sectarisme et son populisme lui vaudront d'être un jour expulsé du pays. À Paris, en 1925, le compositeur Manuel Ponce suit les événements avec inquiétude. Au Mexique, durant son absence, c'est le poète et pianiste Rubén Campos qui continue jusqu'en 1927 le collectage et l'archivage de musique populaire à travers le pays. Comme Ponce, il en réalise des arrangements pour le piano. Tous deux partageront cette passion commune quand ils se retrouveront bientôt à Paris.
Thank you.
Cyprien Katsaris interprétait deux chants populaires de Rubén Campos, Canción Mexicana et El Tecolote. El Tecolote, c'est une sorte de hibou mexicain. À Paris, Manuel Ponce aime beaucoup faire connaître les mélodies populaires de son pays. Et il a fait une sélection de chants très anciens qui remontent pour la plupart au XVIIe et au XVIIIe siècle. Il joue aussi des canciones, apparues au XIXe siècle. La canción mexicaine comme la canción cubaine, c'est un véritable genre musical qu'on ne peut traduire par le terme français « chanson » qui est beaucoup trop réducteur. La canción, à Cuba comme au Mexique, est plus proche de la mélodie ou de l'aria italien et interprétée en général par des voix lyriques. Les canciones sont la plupart du temps très mélancoliques, comme ce « Lejos de ti, loin de toi » arrangé par Ponce, qui évoque la séparation de deux amoureux. Lejos de ti, loin de toi, de Manuel Ponce, par la soprano Encarnación Vázquez et le pianiste Joseph Olechowski. Parmi les chants mexicains qu'avait arrangé Rubén Campos et que Manuel Ponce jouait souvent à Paris, il y a la fameuse Paloma, qui est en réalité une habanera cubaine, composée par l'Espagnol Sebastián Iradier. Et pourtant, on l'a appelée la première canción mexicana, la première chanson mexicaine. L'architecte Fernando González Gortázar, grand spécialiste de la canción, nous explique.
La primera que hizo sensación en México.
La première canción qui a fait sensation au Mexique a été La Paloma, qui n'est pas une chanson mexicaine, mais c'est tout comme, car elle a eu une influence au Mexique vraiment impressionnante. On dit que c'était la chanson préférée de l'empereur Maximilien, qui était quelqu'un de bien et très intéressant, tout comme sa femme.
Anticléricales.
Ils étaient anticléricaux, ce qui était étonnant à l'époque. Ça a été le seul moment dans l'histoire du Mexique où une langue indigène, le nahuatl, a été déclarée langue officielle au même titre que l'espagnol. Et cela durant l'empire de Maximilien. On dit qu'avant d'être fusillé, il a demandé qu'on lui joue la paloma.
Thank you.
À l'instant, c'était un chant populaire de la région de Hidalgo qui succédait à la Paloma dans la version de Rubén Campos interprétée par Cyprien Katsaris. Après cette habanera, il y a une autre mélodie qui est sûrement la première canción totalement mexicaine. Or, il se trouve qu'en 1925, un ténor mexicain est applaudi à tout rompre par le public du Théâtre Olympia à Mexico quand il interprète des chansons populaires. Son nom est aujourd'hui légendaire, Juan Arvizu. C'est lui qui a remis à la mode une chanson qui a été de tout temps le chant des exilés mexicains, la Golondrina, l'hirondelle qui aspire à retrouver son nid.
Y luego,
et après, la Paloma, la Golondrina. Je pense qu'à partir de là, la chanson mexicaine a commencé à exister. C'est une chanson qui a été composée durant l'intervention française au Mexique. Et elle a été composée en France. Le compositeur qui était médecin a utilisé le poème d'un Espagnol qui avait vécu au Mexique et qui avait joué un certain rôle dans la vie publique du pays. Ce compositeur médecin était prisonnier en France quand il a composé cette Golondrina qu'on peut parfaitement intituler une chanson mexicaine.
Golondrina que de aquí se va, o si en el viento te hallara extraviada, buscando abrigo y no lo encontrará. Dejé también mi patria idolatrada, esta mansión que me miró nacer, mi vida es hoy errana que ya no quisiera y ya no puedo a mi manación. También yo estoy en la región perdida, oh cielo santo y sin poder volar.
Le ténor mexicain Juan Arvizu. Ces années-là, Carlos Chavez est reparti aux États-Unis. Il fait le voyage avec Ortega, un ami architecte, et s'établit à New York. Il y retrouve ce pays dynamique, plein d'espoir, d'idées de toutes sortes, avec un niveau de vie qui n'arrête pas de monter, et une culture jeune aussi. C'est alors qu'il découvre vraiment le jazz. Et surtout, il fait la connaissance du compositeur Aaron Copland, qui sera pour lui un ami essentiel. Face aux musiques lisses et raffinées d'Europe, dira Copland, Chavez se revendiquait de notre musique américaine dentelée et angulaire. Chavez, d'ordinaire si sérieux, s'amuse même à composer de la musique populaire nord-américaine. Le Cakewalk de Carlos Chavez par la pianiste Estela Olevski. À New York, Chavez partage un petit appartement dans le Village à Manhattan avec le peintre Rufino Tamayo. C'est là qu'il met en chantier ce qu'il a appelé une Sinfonia de Baile, une symphonie pour un ballet. Il l'a intitulée en anglais Horse Power, puis plus tard en espagnol Caballos de Vapor, les chevaux vapeur. C'est un vieux projet qu'il avait en tête. Il voulait exprimer sa crainte de voir la culture mexicaine bientôt envahie par la culture industrielle nord-américaine trop déshumanisée. L'idée a vraiment pris forme avant son départ du Mexique, quand il a rencontré dans la capitale le peintre Diego Rivera, que le projet a enthousiasmé et qui a immédiatement accepté de concevoir les costumes et le décor. En automne, Chavez n'est parvenu qu'à orchestrer un seul mouvement qu'il a intitulé « La danse des hommes et des machines ». Et c'est cet extrait de Horse Power qui a été créé le 28 novembre 1926 à New York sous la direction de Eugene Goossens à l'Aeolian Hall sur la 42e rue. Copland était dans la salle et Chavez, en Stravinsky aztèque, lui avait beaucoup plu.
Thank you.
Eduardo Mata, à la tête de l'orchestre symphonique Simón Bolívar de Caracas, dans le premier mouvement de Horsepower de Carlos Chávez. À New York, Chávez, Rufino Tamayo et l'architecte Ricardo Ortega mènent une campagne intense de relations publiques pour promouvoir la culture mexicaine, grâce notamment au soutien du compositeur populaire Esperón, qu'on appelle affectueusement Tata Nacho. Un grand ami de Rubén Campos et un compositeur populaire devenu une icône au Mexique. Il était entré très jeune dans une école d'agriculture à Oaxaca, ville où il a été proche de grands peintres mexicains et où il composait ses chansons. En 1919, il décide, le baluchon sur l'épaule, d'aller vivre à New York, où il rencontre Edgar Varèse qui accepte d'être son professeur. En échange, Tata Nacho, qui n'a pas un sou, lui copie des partitions. Il est rentré au Mexique en 1927. Ses chansons n'ont jamais quitté le répertoire des artistes mexicains. C'est ici Jorge Negrete avec le trio Calaveras, enregistré sur le vif à La Havane en 1944, qui interprète « Aunque me cueste la vida ». Au galop de mon cheval, je tiens à me venger, au péril de ma vie, j'aime le danger et je joue fièrement avec la mort.
« Aunque me cueste la vida ». Y tengo por orgullo burlarme de la ley. Me gustan los peligrosos y juego con la muerte. Al fin esa es mi suerte y soy con ella fiel. Traigo de México lindo como regalo una estrella para ponerla a las plantas de esta tierra que es tan bella. Es un lucero robado a mi cielo mexicano para dejarlo clavado en este suelo cubano.
Llevando la amargura de estar solo en el mundo, hoy voy por tierra dura, quemada por el sol. Me gusta la aventura y con dolor profundo prosigo mi camino sin ver a dónde voy.
No tengo
tengo amor que rompa, ni quiebre mi destino. No tengo más amigo que mi propio rencor. Que tiemble mi enemigo, pues ya está en la balanza. Cumplir con mi venganza o abrirme el corazón.
Traigo también unas rosas cortadas en primavera, para las criollitas hermosas, sabrosas y cumbancheras. No más que no estén casadas, que no estén comprometidas, a mí siempre me han gustado solteras toda la vida.
Y aunque me cueste la vida, mi suerte ya echada está, y si la tengo perdida, al cabo que más me da. La ley me echó los caminos y en ello la ley soy yo. Así lo quiso el destino, por eso, bandido soy.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véret.
Le magnifique Jorge Negrete enregistré à Cuba. Justement, en 1926, le Mexique et Cuba sont vraiment sur le devant de la scène latino-américaine. Le compositeur Manuel Castro Padilla vient de faire à Mexico un triomphe avec une parodie du spectacle du Bataclan « Voici Paris », alors en tournée dans les Amériques. Une parodie qu'il a intitulée « Voici Mexico Rataplan ». Il part alors à la Havane, où il collabore avec l'un des plus célèbres compositeurs de théâtre musical cubain, Eliseo Grenet. Tous deux écrivent une revue intitulée « Cuba y México »,« Cuba et le Mexique », qui débute le 23 juillet au théâtre Pirate de la capitale cubaine. Après la création, Castro Padilla quitte l'île et il retrouve Grenet à Mexico, où ce dernier commence une tournée qui le mène dans le sud des États-Unis, à Saint-Domingue et à Porto Rico. Cette année-là, d'autres personnalités cubaines débarquent en même temps au Mexique. L'étudiant communiste Juan Antonio Mella, expulsé de Cuba, y a trouvé refuge. La même année, l'écrivain Alejo Carpentier est invité à un congrès de journalistes et il rencontre les peintres Rivera et Orozco. Tous ont dû entendre les chansons de Castro Padilla, notamment la pajarera, le chant de la vendeuse d'oiseaux, qui est ces années-là un des grands succès de la soprano Margarita Cueto. Ces oiseaux ne sont pas des oiseaux sauvages, chante-t-elle, car ils viennent des terres chaudes de mon pays.
Felicidad me era.
la soprano mexicaine Margarita Cueto. En 1926, c'est aussi Cuba qui va accueillir le compositeur Julián Carrillo, le très sérieux directeur de l'Orchestre symphonique de Mexico, qui délaisse la musique germanique qu'il affectionnait et se passionne depuis des mois et des mois pour la microtonalité. Il précise sa théorie de ce qu'il a appelé « El sonido 13 », le 13e son, dans une revue qu'il publie dans la capitale. Et il crée sa première œuvre microtonale intitulée « Prélude à Christophe Colomb » en février de l'année suivante au Théâtre Principal de Mexico, devant un public plutôt décontenancé. En décembre, il veut faire connaître cette œuvre à New York et sur le chemin s'arrête à La Havane, où il la présente devant un auditoire cette fois plus attentif. Parmi le public, le violoniste cubain Ángel Reyes, qui vit alors à New York. Il est très intéressé par ce prélude à Christophe Colomb et rencontre Julián Carrillo à Manhattan. Il réunit alors quelques amis musiciens avec qui il réalise en studio le premier enregistrement de cette œuvre. Un enregistrement qui date, bien sûr, mais il est rare et précieux, car c'est le plus touchant et le plus réussi. Une œuvre étrange qui exprime une sorte d'expectative dans ces Amériques mystérieuses où allait débarquer Christophe Colomb. Preludio a Colón, le prélude à Christophe Colomb de Julián Carrillo, par la cantatrice et les musiciens de l'ensemble cubain Sonido 13, le 13e son, dirigé par le violoniste Ángel Reyes, enregistré à New York en 1933. L'œuvre avait été créée par Stokowski à Boston un an auparavant. Et c'est en 1960, lors des premiers enregistrements des œuvres de Julián Carrillo par l'Orchestre Lamoureux à Paris, que son œuvre connaît enfin une renommée internationale. En 1925, et là on revient à la musique populaire en plein essor, l'arrivée de musiciens de Guadalajara, appelés mariachis, est un événement dans la capitale Mexico. Ils jouent dans un parc du quartier colonial de San Angel et grâce au soutien de plusieurs intellectuels influents, ils sont les premiers mariachis à enregistrer en direct sur des radios de la capitale. Quelques mois plus tard, un directeur du secrétariat de la santé publique décide de faire venir à la capitale le mariachi de Cocula, dirigé par Marmolejo. Ce sera un succès populaire retentissant. Les mariachis étaient encore bien différents des mariachis que nous connaissons aujourd'hui. Ils se présentaient alors sans trompettiste et portaient un uniforme très simple. Un sombrero de palme, des chemises blanches, un foulard multicolore et un sarape, une sorte de couverture pliée, sur l'épaule. Demain, je m'en vais, et toi aussi tu pars, et sur le chemin, tu comprendras ta douleur, et on te dira qui je suis.
Tu No lloro porque te vas, sino porque no te has ido. Dices que te vas para México lucido. No lloro porque te vas, sino porque no te has ido. Mañana me voy, tú también te vas. Ay, por el camino me la pagarás. Mañana me voy, tú también te vas. Y ahí por el camino me la pagarás.
Le mariachi de Marmolejo, le plus renommé ces années-là. Pendant ce temps au Mexique, la violence s'empare de tout le pays. L'autoritarisme et l'anticléricalisme viscéral du président Calles le poussent à affronter violemment le clergé mexicain et la communauté catholique, ce qui aboutit au conflit sanglant qu'on a appelé la Guerra Cristera de 1926 à 1929 et qui fera des milliers de victimes. La version officielle se limitera à parler d'une guerre entre le progressisme du gouvernement et l'obscurantisme religieux. Et cette guerre civile sera longtemps un thème tabou au Mexique. À la fin des années 70, l'historien mexicain d'origine française Jean Meyer entreprend une recherche historique rigoureuse et ses nombreux ouvrages font aujourd'hui autorité. Le compositeur Manuel Ponce vivait alors en France. Il a été profondément affecté par cette guerre. Il venait d'une famille où la religion occupait une place importante et il était lui-même très catholique. Alors à Paris, il s'investit surtout dans ses études, dans la classe de Paul Ducas à l'école normale. Avec ses condisciples, il prend aussi des cours d'harmonie avec Nadia Boulanger et participe à la vie musicale de Paris. Sous la supervision de Paul Ducas, il révise et achève des partitions qu'il avait amenées de Mexico. Une manière aussi de se protéger de l'actualité préoccupante de son pays.
Thank you.
La nuit dans le grand parc de Chapultepec, El Nocturno, du poème symphonique Chapultepec de Manuel Ponce, par l'Orchestre symphonique du Mexique dirigé par Enrique Batis. À Paris, Manuel Ponce s'est fait de nombreux amis, et le guitariste espagnol Andrés Segovia l'aide à rentrer dans un cercle de musiciens et d'intellectuels qui sont immédiatement conquis par sa personnalité généreuse. C'est ainsi qu'il a été invité un jour chez Varèse, qui avait l'habitude de réunir ses amis le mardi après-midi dans son appartement de la rue de Bourgogne. Ce jour-là, il avait réuni autour d'une table Albert Roussel, Florent Schmitt et le compositeur brésilien Aitor Villa-Lobos. Tous examinaient une grande partition. Il s'agissait de son poème symphonique Amérique. Villa-Lobos a ensuite invité Ponce dans son studio de la place Saint-Michel. Ponce qui revoit aussi à Paris son ami cubain, le poète Mariano Brull, qui réside alors en France. Il met en musique trois de ses poèmes, dont la vision nocturne et envoûtante de Grenade, qui tente de se libérer en Andalousie des traumatismes du passé. J'ai respiré Grenade, où la lumière est une musique de parfum. Chair vive de l'âme, guitare enterrée, chant éternel de Grenade dans la grande nuit. Grenade aux aubes multiples, comme tu es belle à présent et si proche de moi. Granada de Manuel Ponce, interprété par la mezzo-soprano mexicaine Gabriela Thierry et Los Cameristas de México, dirigé par Luis Humberto Ramos. Quand il rentre au pays en 1928, Carlos Chavez organise les saisons de concerts de l'association Nueva Música. Il est épaulé par le jeune violoniste Revueltas qu'il vient de rencontrer. Lors de ses concerts, il crée des œuvres de Hindemith, Debussy, Schoenberg, Varèse, Poulenc, Millau, Bartok, Stravinsky et De Falla. Et il crée son ballet Los Cuatro Soles, les quatre soleils, pour chœur de femmes et petit ensemble orchestral. On connaît l'attachement de Chavez à créer une musique aztèque imaginaire. Cela remontait à son enfance, quand il passait l'été avec sa famille à Tlaxcala, où l'héritage culturel préhispanique était très présent et où il faisait de longues promenades en famille dans les sites archéologiques aztèques. La danse au dieu du maïs Saint-Eotl, extraite du ballet Les Quatre Soleils, a été reprise en 1940 au Musée d'Art Moderne de New York et c'est cet enregistrement réalisé sur le vif que nous entendons. C'était la danse au dieu Saint-Eotl du ballet Les Quatre Soleils de Carlos Chavez par un orchestre formé de musiciens américains et mexicains, enregistré au Musée d'Art Moderne de New York sous la direction du compositeur. En 1926, le violoniste Silvestre Revueltas, qui s'est séparé de son épouse, est retourné vivre à San Antonio, au Texas. Cette ville du Texas était bien moins grande que Austin, où il avait fait ses études. Mais en revanche, elle avait une proportion beaucoup plus importante d'immigrés mexicains. Par conséquent, il y avait là-bas un public nombreux qui parlait espagnol et qui était friand de spectacles variés et populaires. Les théâtres et les tentes de cirque offraient des revues musicales, des vaudevilles et des projections cinématographiques avec les dernières musiques à la mode, comme cet au revoir à la belle Chaparrita, adios a mi Chaparrita, au revoir ma petite bien-aimée, de Esperon, qu'on appelait Tatanacho.
Thank you.
Emilio Cáceres et son orchestre du club Águila enregistré ici au Texas à la fin des années 20. Dans le centre de San Antonio, les musiciens de rue s'installaient pour jouer des corridos, des sones, des polkas, des boléros. Il y avait donc là-bas beaucoup de travail pour les musiciens d'orchestre. À San Antonio, et plus tard à Mobile, dans l'Alabama, Silvestre Revueltas a gagné sa vie en dirigeant dans tous les théâtres. On va se quitter avec la grande chanteuse mexicaine de San Antonio, Lidia Mendoza, qui interprète ici le populaire Cielito Lindo, le beau soleil du Mexique.
De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De tu puerta a la mía, cielito lindo, no hay más que un paso. Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a tu boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Pájaro que abandona, cielito lindo, su primer nido. Vuelve y lo haya ocupado, cielito lindo, es muy merecido. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando te alegran, cielito lindo, los corazones.
C'est le célèbre Cielito Lindo, le beau ciel du Mexique, par Lidia Mendoza qui termine cette émission. On se retrouve dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques. L'émission a été réalisée par Béatrice Trichet, à la prise de son Pierre Monteil. Une émission qu'on peut écouter ou réécouter en podcast.
À réécouter sur francemusique.fr.